Vous êtes sur RTL. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, comme chaque samedi matin de 9h15 à 10h sur RTL. Nous voilà bien, vous le savez, c'est votre magazine pratique du week-end. On vous délivre des conseils et des infos pour vous simplifier la vie, faire des économies, vous régaler et adoucir votre quotidien. On ne déroge pas à la règle, c'est parti pour le sommaire. Plusieurs centaines de milliers de cambriolages ont eu lieu en 2020. Alors comment protéger notre logement? Tous les conseils d'Armel Lévy, journaliste au service éco et conso d'RTL. Les autotests Covid sont en vente depuis bientôt 15 jours. Alors sont-ils fiables et comment les utiliser? Réponse avec Sophie Jousselin, adjointe au service qualité de vie d'RTL. On n'y pense pas forcément et pourtant la déshydratation des aliments a de nombreux avantages. Alors comment ça marche? Angèle Ferremag, chef et naturopathe, nous met le pied à l'étrier.
Rince des montants l'air et de la cambriole. Toi qui eus le bon goût de choisir ma maison. Cependant que je colportais mes gaudrioles.
Brassens ce matin avec Stance à un cambrioleur. Bonjour Armel Lévy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service éco et conso d'RTL. Même en temps de crise sanitaire et de confinement, les cambriolages continuent.
Mais oui, les cambrioleurs ne semblent pas être très attachés au confinement. Ils se baladent toujours. Mais comme les Français étaient davantage à la maison avec les couvre-feux et le télétravail, le nombre de cambriolages a quand même chuté de 16% l'année dernière. Ça n'empêche, on en a dénombré encore 254 000 en 2020. Cela veut dire qu'il y a eu un cambriolage en France toutes les deux minutes.
Mais alors, ça me semble énorme. Est-ce qu'il y a des régions qui sont particulièrement touchées?
Eh bien, si on regarde attentivement le top 10 des régions les plus cambriolées, on voit que l'Île-de-France arrive largement en tête avec 53 000 cambriolages l'an dernier, dont 14 000 rien qu'à Paris, suivi de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 35 000 cambriolages en 2020 et un peu moins de 10 000 cambriolages en Bourgogne-Franche-Comté et en Bretagne. En bas du classement, on trouve la Normandie, le Centre-Val de Loire et la Corse, mais aucune région n'est vraiment épargnée.
Est-ce que les cambriolages ont toujours lieu deux jours en notre absence?
Eh bien non. Deux fois sur trois, les voleurs agissent quand vous êtes chez vous, y compris la nuit. Regardez ce qui est arrivé à Bernard Tapie et son épouse au début du mois. Les agresseurs les ont tirés du lit, ligotés et violentés pour savoir où se trouvait leur coffre. C'est ce qu'on appelle le homejacking. Ce type d'agression, c'est vraiment traumatisant. Il y en a eu 730 l'année dernière en région parisienne, mais le phénomène est en augmentation partout en France depuis 10 ans. Les experts en criminologie disent que le homejacking, comme le carjacking, sont une réponse à la sécurisation des logements et des véhicules. La technologie se perfectionne, donc les voyous contournent la technologie par la violence. D'ailleurs, la maison des époux Tapie était équipée d'un système de télésurveillance très perfectionnée.
Et comment les cambrioleurs choisissent-ils les habitations auxquelles ils vont s'attaquer, Armel?
Alors, ils font du repérage, ils regardent les logements où il y a le moins de systèmes d'alarme, une clôture plus facile à passer, des grandes haies où ils peuvent se cacher et les allées venues des habitants. Donc, quand ils sont sûrs qu'il n'y a personne dedans, ils y vont. Après, il y a toute une série de cambriolages qui sont un peu plus opportunistes, on va dire. Plus on rend l'accès facile, plus cela peut donner des idées aux cambrioleurs. Quand vous laissez une fenêtre ouverte parce qu'il fait chaud, ou la porte ouverte, deux minutes le temps d'aller chercher le pain à côté, les assureurs disent que les cambrioleurs qui osent s'introduire dans les maisons en présence des occupants la journée ont souvent pour objectif de voler la voiture. Ouais. Et comme on pose habituellement les clés sur le meuble à l'entrée, ils conseillent vivement de les ranger ailleurs.
Classique.
C'est différent pour les homejacking, c'était pas spontané. Les agresseurs mènent leur enquête avant et ils ciblent les domiciles présumés riches en objets de valeur.
Et quelles sont les techniques, le mode opératoire des cambrioleurs pour entrer dans notre logement? Ils forcent toujours la porte d'entrée, non?
La plupart du temps, le point faible, ce sont les ouvertures. Donc si vous laissez la porte ou une fenêtre ouverte, c'est l'idéal. Oui. Ou s'il y a une fenêtre au premier étage et que vous laissez une échelle sur le mur ou une grosse poubelle dehors, ils peuvent s'en servir pour grimper. Ils peuvent passer aussi par les toits, donc ce n'est pas parce qu'on est en étage qu'on est dispensé de fermer ses fenêtres. Le but pour les cambrioleurs, c'est d'aller le plus vite possible.
Mais alors j'ai l'impression que ça se passe vite, un cambriolage, quand je vous écoute.
Oui, un cambrioleur ne passe pas plus de 5 minutes à essayer de s'introduire dans un logement. Au-delà, il en cherche un autre plus facile d'accès.
Bon, on fait comment pour se protéger d'un cambriolage? Alors, ça passe d'abord par une protection renforcée de la porte d'entrée?
Oui, près d'un cambrioleur sur deux passe par la porte d'entrée. Donc, les assurances vous demandent souvent une porte blindée pour être couvert contre le vol. Vous pouvez ajouter un blindage sur une porte simple plutôt que de la remplacer. Après, il faut sécuriser les verrous avec une serrure 3 ou 5 points. Pour 20 ou 50 euros, vous pouvez ajouter un verrou pour compliquer l'intrusion. Vous pouvez également fixer une cornière anti-pince sur la porte. Ça empêche l'ouverture au pied de biche. ça se trouve à partir de 50 euros et peut atteindre 200 euros selon la taille de votre porte et l'esthétique.
Vous savez, je me pose souvent la question, est-ce qu'il faut fermer les volets quand on part de chez soi ? Parce que c'est contraignant pour certains et on a tendance à se dire que voilà, on risque pas grand-chose.
Non, mais il faut le faire. La préfecture de police recommande toujours de fermer à clé toutes les ouvertures du logement, garage, porte principale et de maintenir les volets fermés pour les rendre plus difficiles à forcer. Vous pouvez installer une barre de protection à l'intérieur des volets et si vous avez des persiennes, vous pouvez relier avec un cadenas les deux anneaux qui servent à les fermer, ils seront plus durs à ouvrir. Pour 10 euros, vous pouvez là aussi placer des cornières anti-pinces pour que les fenêtres ne s'ouvrent pas avec un pied de biche. Et une dernière astuce, vous pouvez coller des films polyester sur vos fenêtres. Cela permet au vitrage d'éviter de se briser au premier coup. Ils agissent comme des retardateurs.
Parce que c'est vrai que parfois, on se dit qu'on ne va pas fermer ses volets pour avoir, pour donner à notre maison, à notre lieu de vie, en tout cas, le sentiment d'être habité. Alors qu'on se dit qu'en fermant les volets, à un moment donné, on va se rendre compte que le lieu est vide. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'il faut quand même toujours se protéger.
C'est plus dur à forcer.
Oui, c'est ça. Donc en fait, il vaut mieux se protéger plutôt que de se dire qu'on va manipuler aussi les cambrioleurs. Bon, alors j'imagine qu'on évite d'annoncer notre départ en vacances sur les réseaux sociaux ou alors on poste en décalé, quoi.
Ben c'est ça, c'est mieux de les partager une fois que vous êtes rentré.
Mais oui.
Et c'est pareil pour le téléphone. Ne laissez pas un message sur votre répondeur à la maison indiquant que vous êtes absent jusqu'au 1er mai. Le mieux, c'est de faire un transfert d'appel. Comme ça, vous pouvez répondre à distance. Et aussi, l'un des trucs des voleurs en repérage, c'est de regarder les boîtes aux lettres des habitations. Si elles débordent, cela prouve que vous n'êtes pas là. Donc, vous pouvez demander à un proche de vider régulièrement le courrier. Vous pouvez aussi faire suivre votre courrier ou si vous partez moins de 2 mois, utilisez le service de garde du courrier de la Poste pour 20 euros. La distribution des lettres et des colis dans votre boîte est suspendue.
Et les voisins, ils peuvent être d'une aide précieuse, en fait, hein, dans la prévention contre le cambriolage.
Ah oui, c'est un excellent moyen de se protéger des cambrioleurs. Vous leur demandez d'ouvrir l'œil et de prévenir la police s'ils voient des mouvements suspects autour de votre maison. Vous pouvez aussi leur confier un jeu de clés pour qu'ils viennent régulièrement allumer la lumière, la télé ou la radio dans la journée.
Bon, on a encore des questions à vous poser parce que certains aussi trouvent le truc de simuler la présence dans un lieu d'habitation. Ce sera dans un instant. Sinon, vous avez déjà fait les autotests Covid ?
Non, pas encore.
Eh bien, figurez-vous que Sophie Jousselin va nous rejoindre après dans ce studio et qu'apparemment, je vais passer à la casserole. Donc, on verra effectivement comment ça se passe. Et puis après, on parlera des aliments déshydratés. Ça peut changer beaucoup de choses, effectivement, dans nos cuisines. À tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Merci d'être avec nous. C'est le rendez-vous du samedi matin. Si nous voilà bien, on est ensemble jusqu'à 10h. Dans un instant, nous allons vous parler des autotests Covid. D'ailleurs, Sophie Jousselin est dans ce studio. Elle est venue avec le test et apparemment, je vais y passer. Il va falloir que je me le fasse moi-même. Alors que déjà, j'ai un peu de mal, effectivement.
C'est le but de l'autotest.
C'est le but de l'autotest, effectivement. Merci. Je suis bien réveillée, Sophie. Tout va très bien. Angèle Ferremac va nous parler de la déshydratation des aliments dans notre cuisine. Mais pour l'heure, on se sécurise avec Armelle Lévy.
C'est le plus grand des voleurs. Oui, mais c'est un gentleman.
Ils ne sont pas tous gentlemen et ils n'ont pas tous le physique avantageux de Jacques Dutronc. Les cambrioleurs, on en parle avec vous, Armelle Lévy. Vous nous livrez énormément d'astuces ce matin. Est-ce qu'on peut simuler notre présence pour se protéger ?
Oui, pour moins de 10 euros, vous pouvez acheter des boîtiers avec une minuterie. Ces programmateurs s'installent sur des prises électriques reliées à vos lampes pour qu'elles s'allument aux horaires programmés dans les pièces visibles depuis l'extérieur. Ou encore, installer des caméras factices, ça coûte 10 euros à l'extérieur de la maison. Et pour muscler votre système de sécurité, vous pouvez fixer un détecteur de mouvement dans votre jardin pour 50 euros.
Et l'alarme, c'est vraiment dissuasif ?
Oui, bah comme ça fait du bruit, hein, ça fait fuir les voleurs. Selon l'UFC Que Choisir, les alarmes coûtent globalement entre 500 et 5000 euros selon la taille du logement. Elles ne sont pas reliées au poste de police, mais elles vous alertent, vous et tout le voisinage. Et il y a des alarmes maintenant reliées à votre smartphone. Donc quand elles sonnent, vous recevez une notification.
Et la télésurveillance, alors c'est quoi ?
Eh bien, 2 300 000 foyers sont équipés. Ce marché est en croissance de 6 à 7% depuis une décennie. Quand le bouton SOS est activé, un agent de télésurveillance va vous parler par interphone, enregistrer les images à l'aide des caméras disposées dans la maison. Il va prévenir la police. Il peut envoyer aussi un gaz pacifiant pour faire fuir les voleurs. L'installation coûte en moyenne 600 euros. Et après, il faut ajouter 40 euros par mois d'abonnement.
Et c'est quoi un gaz pacifiant ?
Eh bien, c'est un gaz anesthésiant. Ça fait fuir les voleurs.
Oh, d'accord, ok. Effectivement, ça, je pense que ça peut être dissuasif et efficace. Qu'est-ce qu'on fait si on s'absente pour une longue durée, Armelle Lévy ?
Eh bien, vous pouvez prévenir les forces de l'ordre que vous n'êtes pas là. Elles passent régulièrement devant pour vérifier que tout va bien. C'est l'opération Tranquillité Vacances. Vous pouvez remplir le formulaire sur le site service-public.fr, puis le déposer au commissariat ou à la gendarmerie au moins 2 jours avant votre départ. Il y a aussi, dans certaines communes, le réseau des voisins vigilants. Oui. Ils s'engagent à faire remonter aux forces de l'ordre les agissements un petit peu louches. Sinon, vous pouvez prêter votre domicile à votre famille ou le proposer à des amis. Il existe aussi des plateformes d'échange de maisons et d'appartements et des sociétés de home sitting, c'est de la garde de maison pour 130 euros la semaine en moyenne. Des retraités ou des jeunes occupent votre maison, mais avec le coronavirus, c'est moins tendance en ce moment.
Oui, vous avez raison, c'est moins tendance. Merci beaucoup Armel Lévy pour tous ces conseils, en tout cas sur la sécurité de notre logement en ce samedi matin. On se sent plus sécurisé grâce à vos lumières. Et puis, alors, vous parliez de tendance, il y a un truc qui est très tendance en ce moment, c'est le test et l'autotest dont tout le monde nous parle. Vous connaissez Sophie Jousselin ?
Oui, bien sûr.
Elle est sympa ?
Ah, c'est la star, elle est rigolote surtout.
Ah bah dis donc, elle est arrivée avec des autotests Covid et apparemment je vais y passer. Donc on vous tiendra au courant. Merci beaucoup Armel Lévy d'avoir été avec nous ce samedi matin.
Je vais écouter
matin.
Avec attention.
Merci Armel, à plus tard.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Coronavirus, 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 coronavirus.
Renaud et ses copains et sa Corona Song. Sophie Jousselin, bonjour.
Bonjour Flavie, bonjour à tous.
Soyez la bienvenue, vous êtes adjointe au service qualité de vie d'RTL. Vous êtes donc de la maison et vous êtes ma meilleure nouvelle copine.
Pareil,
en ce samedi matin.
Bah, ça va pas durer.
On ne sait pas combien de temps va durer notre amitié parce que là, effectivement...
Au moins un quart d'heure, le temps de faire le test.
Exactement. C'est quoi un autotest en fait?
Alors un autotest, bah, c'est un petit dispositif médical. Ouais. C'est pour ça qu'on l'achète en pharmacie pour l'instant. Et qui permet de savoir si on est positif ou pas au coronavirus. Alors, autotest, on le fait soi-même, chez soi, et c'est un prélèvement nasal, donc dans le nez, et non pas un prélèvement nasopharyngé où on va encore très très loin au fond de la gorge.
Ah, génial. Donc c'est pas comme le test PCR.
Non, 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 on reste dans les abords du nez, 3-4 cm dans le nez.
Bon, vous allez m'expliquer ça, parce qu'effectivement, on a tous fait des tests en pharmacie ces derniers temps, on a fait les PCR. Voilà, les tests nasopharyngés, ce sont des tests qui vont assez loin, je dirais, dans le nez.
Dans le nasopharynx, vraiment tout au fond.
Exactement, exactement. Et donc là, c'est déjà quelque chose qui me rassure, je ne serais pas obligée, parce que moi, sans avoir un pharmacien ou un médecin qui me le fait, je vous avoue que je n'irais pas aussi loin.
De toute façon, on ne le fait pas, quoi. Ça
d'accord,
n'existe pas.
Ok. Non. Ça ressemble à quoi, alors, ce truc?
Alors, c'est un petit kit où il y a 1, 2, 3, 4 éléments. Le premier élément, c'est l'écouvillon. Alors, il est très, très long. C'est un peu comme un coton-tige pour se laver les oreilles, sauf qu'il est plus long. Mais donc, il est beaucoup plus épais que l'écouvillon qu'on utilise pour les tests nasopharyngés.
D'accord.
Voilà. Ensuite, il y a un petit flacon avec duré quelques gouttes de réactif dedans, au fond, là.
Ouais.
On voit. Il y a un petit bouchon pour transformer ce petit flacon en compte-gouttes.
D'accord.
Et puis, il y a ce qu'on appelle la petite cassette. C'est là-dessus qu'on va verser tout à l'heure le réactif une fois qu'on aura fait le prélèvement. Et c'est là-dessus qu'on verra le résultat du test.
D'accord. Donc, ça ressemble, ça, cette petite cassette-là, ça ressemble à un test comme on peut en faire, comme des tests de grossesse.
Un peu comme des tests de grossesse.
Voilà,
c'est
ou des tests HIV que l'on peut faire aussi donc, chez le pharmacien. Son intérêt, c'est évidemment de le faire soi-même.
Alors, c'est l'intérêt, le faire soi-même. Et c'est de le faire pour savoir en quelques minutes si on est positif ou pas. Alors ça peut être avant d'aller chez des amis, en famille. On l'utilise aussi par exemple les aidants, les auxiliaires de vie qui vont chez des personnes âgées, peuvent le faire régulièrement. Ce matin j'avais un pharmacien qui m'expliquait qu'il avait un kiné par exemple qui s'autotestait 2-3 fois par semaine avant d'aller chez ses patients. Voilà, donc ça s'inscrit dans une stratégie de dépistage aussi dans les classes, dans les groupes.
D'accord.
Il y a plein de possibilités.
Bon, et on a combien de temps pour avoir le résultat? Parce que je vais peut-être le faire maintenant et
alors,
on va poursuivre notre interview.
On va le faire toutes les deux si vous voulez.
Bah oui, ça
serait
super sympa.
Plus drôle, hein.
Voilà. Donc,
votre écouvillon qu'il faut sortir de la
petite
pochette.
Je prends mon écouvillon. Alors je ne vous cache pas que évidemment j'ai fait beaucoup de tests nasopharyngés que je n'ai jamais trouvé ça très agréable.
Non,
bien évidemment.
Là c'est pas non plus un plaisir absolu. Hein,
d'accord. C'est ce que je vais dire effectivement à nos auditeurs. Je vais leur dire dans un instant.
Donc ça c'est le petit flacon.
Alors voilà un petit flacon.
Si vous l'ouvrez, à pas le faire tomber.
Ma petite cassette.
Ma petite cassette. Et le petit bouchon.
Mon petit bouchon. Alors,
voilà.
Donc, j'explique pour ceux qui nous écoutent.
Je fais la même chose que vous, je sors tout mon petit matériel.
Voilà, donc, nous avons ce test. Bah, effectivement, je peux vous expliquer que l'écouvillon, on dirait effectivement un gros coton-tige, qu'on a la petite cassette avec deux emplacements de barres, et puis effectivement, ce liquide dans lequel on va tremper, si j'ai bien compris, notre écouvillon.
Exactement.
Alors, docteur, je vous écoute.
Alors, on va commencer. Il faut commencer par ouvrir le petit flacon avec le réactif, en faisant attention de pas tout faire tomber.
D'accord.
Voilà, alors on a la chance, on va pouvoir enlever notre masque.
D'accord, donc on enlève les masques.
Voilà, donc après, on prend notre ami l'écouvillon, on va le rentrer dans la narine jusqu'à temps que ça coince un peu.
D'accord.
On tourne quatre fois.
D'accord.
Et même chose dans l'autre narine.
Ah, on fait les deux en plus.
On fait les deux.
Et le même écouvillon ?
Le même.
Ok, allez, c'est parti.
1-0, c'est parti.
Voilà, je vais vous dire ce que je ressens. Attends, faut que j'aille jusqu'à ce que ça coince.
Jusqu'à temps que ça coince. Oui, vous forcez pas surtout.
Pardon, excusez-moi. Waouh, c'est pas super agréable.
Voilà.
Je tourne quatre fois.
Et moi, j'ai fait quatre fois.
Ok, waouh.
Et ensuite, de l'autre côté.
Je dois être motivée quand même parce que je pleure. Donc,
voilà.
Dis donc, j'ai quand même des grandes narines. Hein. Non, mais excusez-moi, oui, mais ça va loin ce truc-là. Hein.
3, ouh, ça gratte.
Ok.
Et 4. Voilà.
Okay. Pas le truc super agréable.
Une fois que ça c'est fait, vous prenez le petit flacon avec le réactif.
Ouais, ok.
Et vous touillez bien.
D'accord.
En tournant 10 fois.
D'accord.
Voilà, 3. Voilà, en appuyant bien contre les parois. Voilà.
Je pleure. Ok.
Voilà. Donc quand c'est fait, vous le retirez.
Très bien. Je pose mon écouvillon à côté.
Vous posez l'écouvillon. Vous prenez le petit bouchon. Moi, j'ai perdu le mien, donc ça va
d'accord.
être moins facile.
Donc,
mais
en tout cas, cette petite, ce petit liquide
devient
une pipette.
Voilà. On tourne. Et alors là, il faut bien compter. Il faut mettre 4 gouttes dans le petit endroit, là, le petit trou.
D'accord.
4 gouttes de réactif.
Très bien. Moi, j'y suis.
Voilà, j'ai tout foiré. J'ai mis le.
Alors,
truc en
moi, j'y suis. Ça y est, c'est bon. J'ai mis mes 4 gouttes. Donc, on va poursuivre notre interview dans un instant. On va se retrouver. On va laisser les tests. Ça y est, moi, ça fonctionne. On va laisser les autotests travailler. Et nous, on se retrouve tout de suite sur RTL.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Merci d'être avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h sur RTL et vous pourrez voir sur nos réseaux sociaux que je viens effectivement de me prêter à l'autotest Covid. On en parle tout de suite avec Sophie Jousselin.
Nom d'un petit pangolin, je sais pas ce qui me retient, d'envoyer sur Vénus le satané.
Satané virus de coronavirus. Alors figurez-vous que depuis peu, donc, les autotests sont disponibles. On vient d'en faire un dans ce studio. On vous a expliqué le mode d'emploi et vous pourrez retrouver quelques photos sur nos réseaux sociaux. Pendant que mon test est en train de travailler, on va poursuivre notre interview avec vous, Sophie Jousselin. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter les autotests dans la stratégie contre la Covid-19?
Alors, écoutez, c'est un outil de plus dans la stratégie de dépistage de la maladie. Au début, on a eu les tests PCR. Après, on a eu les tests antigéniques à faire en pharmacie. Maintenant, il y a aussi les tests salivaires. Eh bien, on rajoute les autotests. Ça peut, par exemple, être pratique pour des gens qui vont pas se déplacer au labo juste avant d'aller dîner chez des amis. Donc, ils font un autotest.
Est-ce que je peux le faire pour mes enfants ?
Vous pouvez le faire pour vos enfants s'ils ont plus de 15 ans. La Haute Autorité de Santé ne les recommande pas pour les moins de 15 ans.
Okay.
Parce qu'il faut, en gros, il faut être capable de le faire tout seul.
Il est préconisé pour tout le monde ?
Alors, il est préconisé quand on est asymptomatique. C'est-à-dire que vous vous réveillez, vous avez mal à la gorge, vous avez mal à la tête, vous toussez. Vous passez pas par la case autotest, ça sert à rien. Vous allez directement au labo ou en pharmacie faire un test antigénique. Le but, c'est quoi? C'est que, c'est pareil, j'avais ce matin toujours le même pharmacien qui m'expliquait qu'il y a des gens qui sont prêts à remplacer le PCR par ça. C'est-à-dire qu'ils font l'autotest, ils ont des symptômes, ils se testent à l'autotest, ils sont positifs. Et puis, ça s'arrête là, donc il n'y a pas de traçabilité des cas contacts. Donc non, l'autotest, il sert vraiment quand on est asymptomatique, qu'on veut savoir avant d'aller voir des gens, avant d'aller faire quelque chose.
Où est-ce qu'on peut procurer uniquement en pharmacie ?
Alors, pour l'instant, c'est uniquement en pharmacie. Vous savez qu'il y a eu une grande guerre entre la grande distribution et les pharmacies. Pour l'instant, c'est uniquement en pharmacie. Et pourquoi en pharmacie ? C'est un peu pour ce que je viens de vous expliquer. C'est pour éviter que les gens se contentent de l'autotest et qu'on n'ait pas la possibilité de remonter les cas contacts, de faire de la traçabilité.
Est-ce qu'il y a suffisamment de stock pour tout le monde ?
Oui, alors, il y a eu, ça a bouchonné un petit peu les premiers jours parce qu'il n'y avait pas énormément de fabricants qui avaient été agréés. Maintenant, il y en a une dizaine. Et donc, j'ai eu des pharmaciens ce matin qui m'ont dit pour l'instant il n'y a pas de problème, d'autant plus qu'il y a beaucoup de personnes justement qui viennent pour des raisons qui ne sont pas les bonnes, ce que je viens vous expliquer.
Voilà.
Le pharmacien que j'ai eu m'a dit 50% des cas, je ne peux pas donner l'autotest parce que ça ne rentre pas dans les cas prévus.
D'accord. Donc ça veut dire que, tiens, ça y est, je l'ai moi entre les mains. Regardez, j'ai une barre.
Et ben c'est bien, vous êtes négatif.
Très bien. Et je vais d'ailleurs confier à nos auditeurs que cette barre est arrivée très rapidement.
C'est très rapide.
Voilà,
oui,
c'est
normalement
très rapide.
C'est un quart d'heure.
Un quart d'heure pour être bien sûr.
Souvent,
enfin, voilà. Moi, c'est arrivé au bout d'une minute
c'est bien,
en réalité.
Toutes les deux négatives.
Est-ce qu'ils sont aussi efficaces qu'un test PCR ?
Non. Rien n'est aussi efficace qu'un
c'est
test
ça.
PCR. En gros, sur ces tests-là, quand ils vous disent que vous êtes positive, vous êtes positive. Il n'y a pas d'erreur. Il y a pratiquement 100%, c'est juste. En revanche, il peut y avoir des faux négatifs. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes négatif, mais vous ne l'êtes pas. Ouais. Il y a 80% vous allez l'être, 20% d'incertitude. C'est pour ça que même si vous faites le test, même s'il y a marqué que vous êtes négatif, il faut quand même faire attention. Les gestes barrières, continuez à les respecter parce qu'on n'est pas sûr à 100%. En revanche, on est sûr à 100% pratiquement quand on est positif.
Ok. Leur prix ?
Alors c'est 6€ jusqu'au 15 mai, ce sont les complications de l'administration et tout.
D'accord.
6€ jusqu'au 15 mai et ensuite 5,20€ maximum, prix maximum. Vous pouvez l'acheter par boîte de 5, donc c'est moins de 30€ les 5.
C'est pas remboursé par la Sécu ?
C'est pas remboursé par la Sécu et c'est évidemment plus cher qu'en laboratoire, parce qu'en laboratoire c'est gratuit. En revanche, c'est distribué gratuitement aux salariés à domicile qui interviennent auprès de personnes âgées ou en situation de handicap. Ainsi, c'est aussi gratuit pour les proches et accompagnants de personnes handicapées.
D'accord. Donc, si le test se révèle positif, bien évidemment, on fait vérifier.
Immédiatement, on va au laboratoire et on s'isole jusqu'à temps qu'on ait le résultat en laboratoire.
Merci beaucoup pour tous ces conseils, Sophie Jousselin. En fait, vous êtes super sympa, quoi.
Oui. Même avec mon test.
Ça n'était pas du tout un enfer. Non, mais je tiens à dire à nos auditeurs, vraiment, que j'appréhendais quand même.
C'est vrai?
Ah oui, bah, j'appréhendais parce que moi, j'ai jamais fait d'autotest, en plus pharyngé. Et en fait, en réalité, ça n'est rien, mais absolument rien. Et ça peut effectivement nous soulager. Je sais désormais, grâce à vous, que je suis négative. Merci beaucoup et à très bientôt dans cette émission. Bon week-end.
Merci,
salut Sophie Jousselin.
Flavie Flamand sur RTL. Nous voilà bien.
Bonnes idées, elles nous sont livrées par Angèle Ferremac. Bonjour Angèle.
Bonjour Flavie.
Soyez la bienvenue sur RTL. Je vous conseille de faire des autotests. J'ai appris plein de choses il y a un instant. Voilà. Et ça fait du bien et c'est toujours effectivement assez rassurant de pouvoir faire un point sur notre santé régulièrement. Vous êtes chef créatrice.
Ça donne envie.
Ouais, essayez. Enfin, c'est pas non plus un grand kiff. Hein. On va pas se mentir. Hein. Ça donne envie. Oui, en tout cas, effectivement, on y survit très bien. Vous êtes chef créatrice de la guinguette d'Angèle à Paris et naturopathe. On va parler de la déshydratation des aliments. Ça, c'est une bonne idée. On en parle assez peu. En quoi ça consiste ?
Alors en fait, ça consiste à sécher sans cuire les aliments. C'est une méthode de conservation en fait qui permet d'enlever l'eau contenue dans les aliments et donc d'empêcher le processus de moisissure de se développer. Donc de conserver vos fruits, légumes, viande pendant bien longtemps.
Mais j'ai l'impression
et ça permet aussi de jouer avec les textures, les saveurs parce qu'en fait, ça va être beaucoup plus concentré.
J'ai l'impression que c'est une vieille méthode en fait.
Eh ben oui, c'est une super vieille méthode. En fait, la déshydratation, c'est l'une des plus anciennes méthodes de préservation des aliments. Les peuples primitifs déshydrataient déjà ou desséchaient les herbes, les racines, les fruits, les viandes en les exposant au soleil. Donc c'est vrai que c'est très très vieux.
Moi, je trouve ça génial et vraiment en préparant cette émission, je me suis dit qu'on allait apprendre énormément de choses à nos auditeurs ce matin. Et moi, j'ai été convaincue. On va se retrouver dans un instant parce que vous allez nous parler des avantages de la déshydratation, les types d'aliments qu'on peut déshydrater et puis il y a des déshydrateurs aussi qui sont sur le marché et qui peuvent changer considérablement notre vision de la cuisine. A tout de suite Angèle sur RTL.
À tout de suite.
Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien. Flavie Flamand sur RTL, nous voilà bien.
Info sur les cambriolages et comment protéger sa maison, c'est fait. Autotest Covid, c'est fait. Aujourd'hui, avec Angèle Ferremac, on parle des aliments déshydratés. T'as compris ? Angèle Ferremac, j'ai eu une révélation en préparant cette émission. Mais je vous assure, j'ai trouvé que c'était absolument génial comme sujet. Pour ceux qui nous écoutent et qui découvrent cette méthode effectivement de conservation, quels sont ses avantages ?
Alors en fait, c'est une technique qui permet de préserver les aliments toute l'année, d'éviter le gâchis, par exemple l'été avec trop de tomates, ce genre de choses. Et ça permet aussi d'assurer une préservation des nutriments.
Ouais,
parce
c'est
que
ça.
C'est jamais chauffé au-dessus de 60 degrés en fait. Et donc de garder tous les bienfaits.
On connaît assez peu et puis en plus de ça, nous on lutte régulièrement contre le gaspillage alimentaire et je trouve que c'est une super méthode. On peut déshydrater quel type d'aliments ?
Alors en fait, on peut déshydrater pas mal de choses. Par exemple, les fruits, donc les abricots, les ananas, les pommes, les poires, les pêches, les agrumes. C'est génial, les agrumes, après on en fait des infusions toute l'année, des poudres.
Mais
les légumes,
super.
Donc betteraves, carottes, champignons. Les champignons, c'est génial, on peut utiliser pour des risottos plus tard. Les céréales aussi, comme le maïs. Mais on peut aussi déshydrater les viandes et les poissons.
Mais ça sert à quoi ça ?
Ça sert à les conserver plus longtemps et ça sert aussi à faire, pour ceux qui aiment, du bœuf jerky par exemple.
C'est quoi ? C'est le bœuf jerky ?
Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est des morceaux, des petites lamelles de
bœuf. À l'américaine.
À l'américaine, c'est ça. Qui sont mélangés avec de la sauce soja, du gingembre, du poivre, de l'oignon en poudre et tout ça, et qu'on fait sécher. Et je dois dire que pour ceux qui aiment la viande, c'est pas mal.
Bon, faut un matériel spécifique pour ça. Moi, j'ai découvert le déshydrateur.
Exactement. Alors, l'idéal, c'est le déshydrateur. Donc, ça s'achète. En fait, c'est le mieux parce qu'il est équipé d'un ventilateur et d'un contrôle de température.
Ouais.
Donc, l'air circule beaucoup mieux que dans un four traditionnel. Mais on peut aussi, déjà tout simplement faire sécher sur un fil au soleil,
ouais.
Les herbes, les fruits et tout. Et sinon, donc, le déshydrateur, c'est quand même ce qui marche le mieux. Quoi.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai découvert ça, c'est comme un petit four en fait, avec plusieurs étagères sur lesquelles vous disposez vos aliments en tranches. Et finalement, vous les laissez le temps de la déshydratation et vous les ressortez et en fait, ils sont prêts à l'emploi.
Exactement, ils sont secs.
Ça coûte cher ?
Ça coûte quand même entre 40 et 300 euros, un peu selon la gamme.
Ouais,
mais je pense que c'est un objet, il faut être sûr de vraiment l'utiliser avant d'investir, parce que ça prend pas mal de place, ça fait du bruit, ça fait des odeurs. Ça reste allumé entre 12 et 36 heures.
C'est long.
C'est un peu énergivore. Oui, c'est long.
D'accord, ouais. Ok. Et dans quel type de récipient est-ce qu'on conserve les aliments qui sont déshydratés ?
Alors, on peut les conserver dans des bocaux en verre, par exemple,
ouais.
Ou dans des boîtes en fer qui se ferment hermétiquement.
Et ça se conserve longtemps ?
Ça se conserve au moins un an. Comme toutes ces méthodes de conservation, en fait, comme la lactofermentation, les bocaux et tout ça, le principe, c'est vraiment de garder un légume de saison ou un fruit de saison toute l'année. Donc, normalement, on n'a plus besoin de le consommer après un an, parce que le fruit, le légume revient. Mais ça se conserve au moins un an, et après, on le voit de toute façon. Quand il est réhydraté, quand il commence à s'abîmer, on le voit. Mais en fait, ça peut se conserver beaucoup plus longtemps.
Mais alors, il y a un truc quand même que j'ai du mal à comprendre, c'est qu'on a bien des aliments qu'on ne va jamais réhydrater, comme les fruits secs, comme les agrumes séchés que l'on peut mettre dans une tisane. Et puis, il en est d'autres qu'on va déshydrater pour après les réhydrater et cuisiner avec. C'est bien ça ?
Exactement. Ce qui est génial avec la déshydratation, c'est qu'on découvre un nouvel univers. C'est vraiment une nouvelle façon, des nouveaux goûts, des nouvelles textures. Donc, c'est très connu dans la cuisine vivante, notamment pour les crudivores qui ne mangent que du cru. Parce qu'en fait, il faut qu'ils trouvent des techniques pour varier les saveurs, varier les textures et tout ça.
Mais alors, moi, j'ai tendance à penser qu'on ne réhydrate que les champignons. C'est une erreur ?
Par exemple, les abricots, quand on les déshydrate, quand c'est la saison et qu'on les réhydrate, moi j'ai fait des super sauces pour les légumes ou pour la viande avec des abricots réhydratés, c'est vraiment excellent. J'aime beaucoup utiliser par exemple déshydrater de la betterave, donc en fines tranches, je les fais déshydrater. Ensuite, je la réduis en poudre et ça me fait un colorant naturel pour les macarons, les risottos.
Pas mal, d'accord.
On peut vraiment, quand on réhydrate, ça n'a pas le même goût.
Et comment on réhydrate ?
Alors tout simplement, en laissant tremper dans l'eau. Ou alors, dans le cas des champignons, quand on fait un risotto, en le mettant dans l'eau de cuisson du riz.
D'accord, ok. Oui, donc c'est aussi simple finalement de déshydrater que d'hydrater, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment une méthode
c'est plus simple de réhydrater. Folle.
Ouais. Et comment on cuisine ensuite, alors ?
Alors ensuite, on peut faire plein de trucs. On peut faire des poudres, des colorants, mais on peut faire des crackers aussi, ce qu'on appelle des crackers. Donc c'est des crackers crus. En général, donc dans tout ce milieu-là, on utilise aussi souvent des extracteurs de jus. Mais et donc avec les restes, les résidus des extracteurs de jus, on peut faire des crackers crus. On peut faire aussi un truc qui s'appelle le cuir de fruits. Alors ça, c'est assez rigolo. Les enfants aiment beaucoup. En fait, on va mixer des fruits, donc souvent ou de la banane ou de la framboise. Ou des fraises, mais il faut qu'il y ait des petits pépins dedans comme ça, parce que la peptine en fait va de la pomme aussi. La peptine va permettre de lier et on va déshydrater en fait ce smoothie en quelque sorte et ça va donner vraiment la consistance d'un cuir.
C'est fou.
Qui est hyper coloré, qui est délicieux en fait, c'est des bonbons maison quoi. Et on peut leur donner toutes les formes qu'on veut, on peut s'en faire des masques comestibles, on peut faire plein de trucs.
Non, mais en fait, il y a quelque chose de ludique, hein.
Ah ouais, complètement. Ouais, c'est assez drôle de pouvoir faire sécher ces trucs quand même.
Et vous êtes venu avec une recette justement, parce que là maintenant on vous écoute, on a envie d'aller faire notre marché, on a envie d'acheter un déshydrateur. Comment ça se passe ?
Alors moi, il y a un truc que j'adore et là en ce moment c'est vraiment la saison, c'est les chips de kale cru au fromage, sans fromage.
Ah, bien vu, la magicienne.
Alors, pour les chips de kale, donc on va prendre environ 130 grammes de chou kale frais. Alors moi, je vous conseille de choisir, si vous pouvez un peu piocher les plus petites feuilles, c'est les meilleures. Mm-hmm. On va mélanger, donc dans un saladier, 20 grammes de tamari. Vous savez, le tamari, c'est comme la sauce soja en meilleur. Si vous avez de la sauce soja, ça fait l'affaire. 10 grammes de vinaigre de cidre, parce que le kale, en fait, il a besoin d'un peu d'acidité pour que les fibres se cassent. Souvent, il y a beaucoup de fibres, donc ça aide. 10 centilitres d'eau à peu près. 30 grammes de tahini, donc c'est de la purée de sésame. Si vous avez du beurre de cacahuète, de la purée d'amande, vous pouvez tout à fait remplacer. Et 2 cuillères à soupe de levure de bière ou de levure maltée qui vont vraiment donner le côté fromager. Si vous n'avez pas, ce n'est pas grave, c'est quand même délicieux sans. Et donc là, c'est très simple. Donc évidemment, on lave son kale, on le rince, on enlève, si elles sont trop grosses, la nervure centrale. On va masser avec toute cette tous ces liquides, en fait, on va faire une sorte de gros mélange. Et ensuite, tout simplement, on va étaler, c'est une sauce un peu crémeuse grâce à la purée de sésame, donc c'est hyper gourmand. Et on va disposer les feuilles de kale donc sur un papier de cuisson ou dans le déshydrateur. Et on va le laisser ou dans le déshydrateur 12 heures ou au four 8 heures à 62 degrés avec la porte légèrement ouverte. Comme je le fais au four traditionnel, moi je coince la porte avec une cuillère en bois pour que l'eau puisse partir. Et c'est délicieux. Ça fait des chips vraiment... des chips de légumes, et je vous assure que tout le monde est converti là.
Eh bien, merci beaucoup, et pour vos rires ce matin. C'est toujours un plaisir, Angèle Ferromag, et pour ces recettes. Et je pense qu'on a convaincu tout le monde. En tout cas, moi, je suis fan de la déshydratation et je vais m'y coller dès ce week-end. Merci beaucoup.
Merci,
Angèle. Ma cuisine naturelle pour bébé, c'est votre dernier ouvrage chez Marabout, et la guinguette d'Angèle, c'est à Paris. Merci, Angèle Ferromag. On vous fait des
bisous.
Des bisous, comme d'habitude, parce que ça nous fait du bien d'entendre Philippe Catherine. Pour conclure cette émission, nous voilà bien, c'est terminé pour cette semaine. En attendant de nous retrouver samedi prochain, vous pouvez retrouver les replays de cette émission sur l'application RTL et sur Radio Player France. Les astuces et les recettes sur nos réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous lundi dès 14h30 sur RTL pour En effet pour s'entendre, votre magazine du partage et de la réflexion. Et la semaine prochaine, 9h15, 10h pour un nouveau numéro de Nous voilà bien. Prenez bien soin de vous, passez un très bon week-end à l'écoute d'RTL bien sûr. Je vous embrasse.
Flavie Flamand sur RTL, Nous voilà bien.